tous. À 8h15 du matin, le 6 août 1945, je suis devenue une victime de la première attaque atomique dans l'histoire du monde. Je suis ici pour demander qu'on élimine totalement les armes nucléaires et qu'on abandonne la théorie de la guerre nucléaire limitée.
Aux États-Unis, donc, les généraux qui sont en charge de l'arsenal nucléaire ont toujours dit, quand on commence à utiliser les armes, ça se termine toujours de la même manière. Et ça se termine avec une guerre thermonucléaire globale. Et tout le monde meurt. Ça, c'est leur message. Et c'est le message qu'ils disent publiquement au Congrès américain, etc. Donc, dans leur idée, on ne les utilisera pas, parce que tout le monde sait que si on commence à les utiliser, c'est la guerre totale. Sauf qu'il y a plein de raisons, aujourd'hui, de penser qu'il y a plein de possibilités pour que ces armes puissent potentiellement être utilisées, que ce soit de manière consciente, potentiellement de manière accidentelle, etc. Et on sait qu'on ne sera pas capable de contrôler l'escalade. Donc c'est un peu le dilemme de maintenir ad vitam aeternam ces arsenaux, c'est de se dire qu'on est capable de détruire notre civilisation actuelle et on se dit capable de maîtriser, de contrôler nos armes pour être sûr que dans les 1 mois, 1 an, 10 ans et peut-être 100 ans, puisque aujourd'hui on parle de maintenir les armes nucléaires et renouveler les arsenaux jusqu'à la fin du 21e siècle, qu'on sera capable de tout maîtriser, qu'il n'y aura pas d'accident, qu'il n'y aura pas quelqu'un qui commencera à les utiliser et qu'on n'aura pas une guerre thermonucléaire totale au bout du compte. Et ça, c'est un pari sur l'avenir. Et c'est un pari qui serait peut-être utile de réfléchir à ne pas faire.
« 17 juillet 2025. Ma vie, parfois, ne me semble pas tout à fait réelle. On parle de moi dans les plus hautes sphères, au cours de brillants exposés. On se livre sur mon compte à de savants calculs de probabilité comme à des exercices de simulation terrifiants. Pourtant, je me sens étrangère à tout ça. À dire vrai, je m'ennuie. L'effet de l'âge, sans doute. J'ai fêté mes 80 ans hier. Oh, toute discrétion, comme il se doit. La faute à toutes ces procédures, ces exercices d'entretien qui, à la longue, m'épuisent. 80 ans à courir le monde, la peur au ventre, de Washington à Pékin, Londres, Paris, et puis Moscou. Tout ça finalement pour faire tapisserie. C'est long. J'ai essayé d'en parler aux membres du Club des Cinq, mais ils disent que pour moi, la retraite à 80 ans, c'est trop tôt. Et puis surtout, ce ne serait pas le bon moment. Ils disent toujours ça. D'ailleurs, je vais devoir refermer mon journal pour aujourd'hui. On me réclame sur le triomphant. Pouf! Quelle existence!
Journal de la bombe, une vie atomique. Un héritage éternel. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Anne Pérez.
La dissuasion nucléaire a joué un rôle fondamental dans la préservation de la paix et de la sécurité internationale, notamment en Europe.
Emmanuel Macron.
Je suis intimement persuadé
2020.
Que notre stratégie de dissuasion conserve toutes ses vertus stabilisatrices et demeure un atout. La stratégie nucléaire de la France vise fondamentalement à empêcher la guerre.
Ce qui est très marquant dans le domaine nucléaire, c'est la verticalité, en fait, entre le président de la République et les commandants de forces nucléaires. C'est-à-dire que le président peut déclencher le feu nucléaire dans des préavis très très courts, directement, parce qu'il est branché sur le commandant ou les commandants de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins et les patrons des escadrons des forces aériennes stratégiques.
Bernard Rogel, ancien chef de l'état-major particulier du président de la République.
La dissuasion, elle est exercée en particulier par les sous-marins nucléaires. Ils sont quasiment invulnérables. Pourquoi ? Parce qu'ils ont aujourd'hui des qualités de silence qui les mettent à un bruit inférieur à celui de la mer. Le principe de notre dissuasion et de notre permanence sous-marine, c'est que on a toujours un sous-marin qui est déployé très loin. C'est ce qu'on appelle en termes maritimes la dilution du sous-marin dans l'océan. C'est ça qui assure l'invulnérabilité de ce bateau. À partir du moment où il a envoyé son dernier contact avec ses frégates qui l'accompagnent jusqu'au moment où il plonge, à partir de ce moment-là, plus personne ne sait où il est, y compris le président de la République. C'est-à-dire que celui qui a la responsabilité de la dilution du sous-marin nucléaire, c'est son commandant. Pendant les 70-80 jours que dure la patrouille.
Vous prenez un sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Il y a 16 missiles.
Général Bernard Norlin.
Dans un missile, vous mettez entre 6 à 10 ogives nucléaires. Chaque ogive nucléaire fait 100 kilotonnes. Si vous savez que dans un sous-marin, il y a 16 missiles, vous arrivez au résultat suivant, c'est que vous avez la capacité de destruction équivalente à 1000 Hiroshima. Si vous savez que à Hiroshima, il y a eu approximativement, ça se discute, mais 200 000 morts, ben ça veut dire qu'avec un sous-marin nucléaire, vous êtes capable de détruire, de tuer plus de 200 millions de personnes. Voilà, c'est ça la capacité. Donc, comme on a 4 sous-marins et qu'on peut penser que, logiquement, on pourrait en mettre en cas de crise 3 à la mer, on peut atteindre 600 millions de morts. Au point de vue capacité destructrice et potentialité destructrice, on peut dire que la force de frappe nucléaire française, elle est, à mon avis, suffisante. En France, on a toujours un vocabulaire qu'on adore, c'est, on parle toujours de stricte suffisance, ce dont avait horreur Paul Quillès, parce que bon, c'est suffisant ou c'est pas suffisant. Qu'est-ce que ça veut dire, une stricte suffisance? Si c'est suffisant, c'est suffisant, c'est pas, vous voyez ce que je veux dire.
Born to die?
La dissuasion, c'est pas fait pour faire la guerre, c'est fait pour l'en empêcher. C'est fait pour faire peser la menace de dommages inacceptables sur un adversaire pour le dissuader de nous attaquer. On est dans cette logique qui consiste à dire je fais suffisamment peur à un adversaire pour qu'il prenne jamais le risque de nous attaquer. C'est pas un pari, c'est vraiment cette logique-là qui repose sur la crédibilité de notre dissuasion. On dit ça sera strictement défensif, lié à nos intérêts vitaux. La seule dérogation à ça, c'est de se dire si demain quelqu'un venait à essayer d'envahir notre territoire, eh bien on commencerait par se défendre de manière conventionnelle probablement. Si le président considère que la protection du territoire rentre dans le cadre des intérêts vitaux. Encore une fois, c'est au président de définir ses intérêts vitaux et à lui seul. Il pourrait dire, ben, dans ce cas-là, je fais un tir unique et non renouvelable, c'est-à-dire entier, on ferait un seul tir pour dire, vous arrivez dans ce que je considère être mes intérêts vitaux et donc je suis capable de mettre en œuvre ma force de dissuasion. C'est un tir unique sur une cible qui serait choisie probablement pour pas déclencher une escalade, et puis surtout non renouvelable. C'est-à-dire que là, c'est le dernier avertissement avant mise en œuvre des forces nucléaires.
What about in between the time you're born and the time you die? Who can live without hope?
C'est un pari qui est basé à la fois sur des choses extrêmement sophistiquées, complexes, à savoir les capacités, les armes, etc., et quelque chose qui est presque simple et insaisissable, mais qui est l'état d'esprit de l'adversaire et la manière de l'influencer le plus efficacement possible.
Emmanuel Maître.
Donc c'est une combinaison des deux, un calcul, comment est-ce qu'il va percevoir les choses et à quel moment il sera convaincu que son action aura beaucoup plus de dommages que de succès. Comment je peux le convaincre que je vais réagir si il procède à telle ou telle attaque. Donc tout ça est à la fois un jeu psychologique qui utilise sans doute les mêmes ressorts que l'on avait à l'époque du néolithique, d'un point de vue purement psychologique, de la rationalité adverse, d'essayer de comprendre comment faire mal, etc. Et puis en même temps, une sophistication technologique extrême pour justement s'assurer que nos armes pourront résister à n'importe quelle attaque, pourront déjouer des défenses antimissiles, etc., etc.
La dissuasion, si vous voulez, c'est un bluff. Elle ne marche, en fait, à mon avis, que si les deux protagonistes ont la même capacité.
Yves Lenoir.
La dissuasion à la française, c'est de dire avec 300 bombes, on va dissuader un gars qui en a 3000. Mais avec 300 bombes, vous en tirez 10 missiles, vous envoyez 10 avions. Est-ce que vous savez si une seule va arriver? Non. Mais si vous les envoyez, l'autre, vous êtes sûr qu'il va vous saturer vos défenses et qu'il va détruire toute votre infrastructure, au moins celle de votre force de dissuasion. Je vois pas l'intérêt. D'ailleurs, Giscard, dans ses mémoires, avait dit « Ils peuvent nous tirer une bombe, moi je répliquerai pas parce que je veux laisser à la France une chance d'exister dans l'avenir. » Et je pense que tout homme politique raisonnable penserait cela.
En cas de méprise sur la détermination de la France à préserver ses intérêts vitaux, un avertissement nucléaire, unique et non renouvelable, pourrait être délivré à un agresseur étatique pour signifier clairement que le conflit vient de changer de nature et rétablir la dissuasion.
Dans la doctrine officielle française, il y a la possibilité officielle de l'usage de l'arme nucléaire en premier. Et il y a tout un narratif pour dire c'est pour rétablir la dissuasion, c'est-à-dire que l'adversaire recevant une arme nucléaire tactique recule en disant ah oui là j'ai été un peu trop loin, donc on va, voilà. J'imagine bien que si c'est la Russie, il va pas subir une attaque nucléaire sans riposter par une attaque nucléaire et ainsi de suite, et je frappe de plus en plus fort et ainsi il y a de plus en plus de partenaires qui s'y mettent et ça finit en escalade nucléaire. C'est complètement absurde, hein. Le problème, justement, de la dissuasion, c'est que c'est le tout ou rien. Si vous perdez, ben vous perdez tout. C'est là ce qui n'est pas dit. On parle toujours, vous savez, la dissuasion, c'est une assurance vie. Et moi, je dis toujours, la dissuasion, c'est une assurance d'essai. Parce que si vous ratez votre pari, vous êtes mort.
D'ailleurs, en France, on conçoit même pas vraiment l'échec de la dissuasion. La dissuasion ne peut pas échouer parce qu'on ne peut pas mener de guerre nucléaire. Ce serait évidemment un suicide immédiat. Donc on n'a jamais dépensé d'argent pour construire des systèmes de défense antimissile ou pour faire ce qu'ont fait les Suisses, par exemple, construire des abris antiatomiques. On en a très peu en France parce que la dissuasion ne peut pas échouer, on ne le conçoit pas. Notre crédibilité, c'est de dire que ça n'échouera pas parce qu'on est prêt à en assumer les conséquences.
Effectivement, il n'y a pas de plan B. C'est-à-dire que si la dissuasion ne fonctionne pas,
Jean-Marie Collin,
on est face à une destruction de la France. Donc ça, c'est une réalité qui est aussi niée. Donc il y a aussi cette volonté du discours de dire la dissuasion fonctionne. La dissuasion, c'est donc bien menacer d'employer des armes de destruction massive en permanence sur un État, ce qui signifie que cette menace d'emploi, elle doit être vue comme crédible par cet État. Cette crédibilité, elle se voit à travers des moyens budgétaires, des discours qui sont faits par le président, hein, et puis bien sûr des exercices. On a tous les 4 mois des forces aériennes stratégiques qui réalisent des exercices aériens au-dessus du ciel français. On a de temps en temps le tir d'un missile intercontinental français aussi, en gros de la Bretagne en direction des côtes brésiliennes, qui s'arrête un petit peu avant, heureusement pour les Brésiliens. Sans armes nucléaires, hein, bien évidemment, je le précise. Donc ça, c'est ce qui permet de la crédibilité. Mais c'est surtout l'acceptation dès à présent, par le président de la République et par son chef d'état-major, de nier l'existence du droit international humanitaire. C'est-à-dire que les principes de précaution, de distinction et de proportionnalité ne sont pas respectés puisqu'on accepte que cette dissuasion, ces armes nucléaires, on peut les employer contre des objectifs civils, encore une fois. Donc ça, c'est la réalité. Et puis, c'est la dissuasion, ça, ou la menace d'employer des armes nucléaires, c'est bien faire le pari, avoir l'espoir que l'autre, devant cette potentielle menace, cette réalité de catastrophe, va reculer, ce qui va nous empêcher de réaliser rationnellement un geste irrationnel, puisque si on engage ce geste, il est probable que l'adversaire va aussi utiliser son arsenal nucléaire et donc va aussi détruire notre population. Donc, l'arme nucléaire n'assure donc pas notre sécurité, puisque c'est ce qui va nous, finalement, mettre fin à notre société humaine telle que nous la connaissons.
Ты что, как?
Des quelques armes que les États-Unis possédaient en 1946, on arrive à plus de 60 000 armes des années 80.
Sébastien Philippe.
Les chiffres ensuite donc descendre à la fin de la guerre froide. Au jour d'aujourd'hui, il y a à peu près 12 000 armes qui sont dans les arsenaux de 9 pays. Parmi les 12 000 armes, il y en a plus de 10 000 qui sont en Russie et aux États-Unis. Alors, il y a 7 pays qui ont des arsenaux nucléaires, mais qui sont de taille beaucoup plus petite. Et donc, qui sont la France, l'Angleterre, la Chine, l'Inde, le Pakistan, Israël et la Corée du Nord. Et depuis qu'on a cette situation, non seulement d'avoir autant d'armes, mais aussi d'avoir amélioré la précision de ces armes, historiquement, la stratégie de guerre nucléaire, à la base, c'était tout d'abord une stratégie anti-ville. Le but, c'était de détruire la population adverse. Au fur et à mesure du développement de la technologie, notamment du système de guidage des missiles, etc., on est capable d'ajuster la précision des armes. Donc, on a été capable de prendre en compte des cibles militaires, industrielles, politiques, etc. Pendant la guerre froide, il y a un débat important sur est-ce que c'est éthique de cibler des villes. Aux États-Unis, notamment, on considère aujourd'hui que les plans d'utilisation des armes nucléaires ne doivent pas, on va dire, cibler des populations civiles pour cibler des civils. On va cibler des infrastructures militaires qui supportent la guerre, on va cibler les armes nucléaires adverses et les centres de décision qui peuvent se trouver au milieu d'une ville, donc on va quand même détruire des villes. Ben, Moscou sera clairement détruite. Mais une des grosses parties du plan, c'est d'attaquer les armes nucléaires de l'adversaire. Depuis la mer avec des sous-marins ou depuis la terre, depuis les silos, ça peut prendre entre 8 à 30 minutes d'atteindre la cible. Ces armes sont lancées, on ne peut pas les rappeler. C'est à ce moment-là qu'on doit décider si on veut répondre et lancer nos propres armes nucléaires pour pouvoir les utiliser avant qu'elles soient détruites. Donc on est dans une situation où non seulement donc on peut lancer plus de 800 armes à tout moment, mais si on détectait une attaque aux États-Unis, une attaque de la Russie, si on détecte ces quelques minutes, 5 minutes, on réveille, s'il est en train de dormir, le président des États-Unis, si c'est pendant la journée, on essaie de le trouver. On a à peu près une minute pour lui faire un briefing de la situation. Et ensuite, on a quelques minutes pour que le président prenne la décision, oui ou non, d'utiliser ses armes. Le système, finalement, il est fait pour que le président, il a tellement peu de temps pour comprendre ce qui se passe. Et les options qu'on a pré-préparées pour lui, en fait, elles le poussent naturellement à utiliser les armes. Donc on est dans un monde où tout ça peut se passer extrêmement rapidement et où finalement il n'y a pas de protection en fait par rapport à cette réalité.
January 2018. J'étais au repos depuis quelque temps. On n'entendait plus parler de moi jusqu'à hier. Sur le coup des 8 heures du matin, un message est tombé sur les téléphones portables de l'île d'Hawaï. Voilà qu'on annonce ma venue de façon imminente. Ballistic missile threat inbound to Hawaii. Seek immediate shelter. This is not a drill. This is not a drill.
Repeat. The US Pacific Command has detected a missile threat to Hawaii.
Je n'étais même pas au courant. Terreur. Panique, on hurle, on s'enferme dans les caves, on jette les enfants dans les bouches d'égouts.
Les lignes d'urgence sont saturées et la panique gagne la population.
Il faut dire que certains membres du club sont tendus. Il y a un type à Pyongyang qui n'arrête pas de tambouriner à la porte. Il me veut. Mais moi, je ne veux pas. Il fait peur à tout le monde. Je dois reconnaître qu'à moi aussi, parfois, je fais peur.
is no danger. There is no danger.
38 minutes plus tard, le gouverneur de l'île a envoyé un message pour rassurer tout le monde. Ce n'était pas moi, seulement mon ombre.
C'était en fait un employé de la sécurité qui a appuyé par erreur sur le mauvais bouton.
Be prepared today for survival tomorrow.
Depuis les années 80, les essais nucléaires sont devenus souterrains. Donc déjà, on ne voit plus la manifestation la plus commune de la violence nucléaire. Donc littéralement, c'est loin des yeux, loin du cœur. C'est une première mise à distance.
Benoît Pelopidas.
Ensuite, il y a une deuxième mise à distance qui est l'incapacité des experts para-officiels du nucléaire à dire la totalité des vulnérabilités nucléaires. Et ça, c'est saisi très bien comme injonction pour ces experts par l'un des plus grands stratégistes français, qui est le général Lucien Poirier, qui dit « Dire les limites de validité de la dissuasion nucléaire, c'est faire le jeu de l'adversaire. » Les experts opèrent à partir de cette maxime. Donc ils vont partir du principe que ce qu'ils disent doivent convaincre l'adversaire de la crédibilité de la dissuasion. Donc de ce fait, s'ils avaient connaissance de limites, d'accidents, de problèmes, ils seraient professionnellement incités à ne pas en rendre compte. J'ai pu documenter comment plusieurs acteurs qui ont eu connaissance de cas de perte de contrôle ou de cas de presque explosion ont choisi de ne pas en rendre compte à leurs supérieurs ou de les raconter rétrospectivement comme des succès du contrôle tant que ça n'a pas explosé.
Sur cette reconstitution, un avion de l'armée américaine percute violemment un bombardier alors qu'il tente de le ravitailler.
17 janvier 1966.
Trois bombes tombent autour du village agricole de Palomares, heureusement sans se déclencher.
Il y a effectivement dans le discours français, lorsqu'on lit certains textes, il y a juste une impossibilité qu'il y ait un jour un accident nucléaire dans nos arsenaux. Et c'est juste assez incroyable de tenir ce type de discours puisque on ne peut pas réduire à 0% le risque d'un accident nucléaire. On a toute une liste d'accidents, que ça soit Coldsboro aux États-Unis en 1961, Palomares, par exemple, ou Tulé, qui sont quasiment les mêmes types d'accidents, où on a des bombardiers américains qui vont, pour différentes raisons, avoir un accident au sens propre du terme, mais qui transportaient des armes nucléaires et qui vont répandre des particules radioactives sur différentes zones du Groenland, de l'Espagne ou des États-Unis. Par chance, aucune bombe ne va exploser au sens propre avec l'image d'un champignon nucléaire, mais on aura bien des pollutions radioactives importantes.
En dehors de la météo, le premier grand titre de l'actualité, eh bien, ce sont les suites de l'explosion aux États-Unis d'un silo d'un missile intercontinental Titan II. Cela s'est passé dans l'Arkansas. 22 blessés, dont plusieurs dans un état grave. Eh bien, nous avons appris la nuit dernière que l'un des membres de l'équipe d'entretien du silo a succombé à ses blessures.
Le triomphant. Un des fleurons de l'armée française. Ce sous-marin nucléaire est capable, comme ici à l'entraînement, de lancer des missiles porteurs de la bombe atomique.
16 février 2000.
Mais l'incroyable, ce qui semblait impossible s'est produit. Il y a 15 jours, il a heurté sous l'eau à très grande profondeur un sous-marin britannique du même type, le Vanguard. Le choc a obligé chaque sous-marin à rejoindre sa base.
J'échange avec de nombreux parlementaires, donc sur différents types de législatures, où je me rends compte que les parlementaires, dans leur écrasante majorité, ne connaissent pas ce sujet. J'ai le souvenir, lors d'une audition en 2014 à la Commission de la Défense, comme on n'a pas beaucoup de temps pour s'exprimer, d'avoir voulu utiliser un certain nombre d'acronymes, TNP pour traiter de non-prolifération nucléaire par exemple, de voir différents parlementaires tourner leur tête et ne pas comprendre ce que je disais, tout simplement parce qu'ils ne connaissaient pas ce traité et qu'il a fallu que je rentre dans certains détails. Donc, comme on a une absence de compréhension de la réalité et de la globalité des enjeux, comme la plupart des parlementaires n'ont qu'un seul canal d'information qui est celui du ministère des Armées, forcément le jeu de la connaissance est troublé. Il n'existe pas en réalité. Et donc ça, c'est un véritable problème. Concrètement, les parlementaires ne sont que le reflet d'une manière générale des Français. Alors, je peux comprendre que les Français ne s'interrogent pas tous les matins sur le danger de l'arme nucléaire, et heureusement d'ailleurs, mais la façon dont les médias d'une manière générale parlent de ces systèmes d'armes, ils n'en parlent que positivement quand ça émane de la France, négativement quand ça vient de la Chine, la Corée du Nord ou de la Russie. Ils n'en parlent que sur un plan technique et technologique, mais c'est pas que ça. C'est aussi des armes de destruction massive. Et on a tout ce côté-là qui n'est jamais énoncé, jamais expliqué. Et donc cette réalité est effacée et évite finalement ou empêche les Français de penser et de comprendre pleinement ce système et les enjeux qui sont derrière les armes nucléaires. Ça nous engage sur presque 80 ans, en tout cas sur ce qui est aujourd'hui encore décidé. Ça engage aussi sur des milliards sur la période 2024-2030. On parle de 53 milliards d'euros.
Si on ignore ce qui nous menace, on vit au jour le jour, sans se soucier de savoir que l'effondrement du monde plane au-dessus de nos têtes, sous la forme d'une bombe atomique.
Gunther Anders, 1985.
Je pense que nous avons l'obligation morale d'être schizophrènes. Même si l'on observe la situation avec une forme de désespoir, nous n'avons pas le droit d'agir comme si nous étions désespérés. Nous devons faire comme s'il existait encore une issue, comme si le salut était encore possible.
L'explosion de la bombe atomique, nous avons du mal à nous la représenter en tant que telle. Alors, je vais faire le parallèle extrêmement intéressant. Quand le réalisateur Lanzmann, quand il fait Nuit et brouillard,
Bruno Villalba,
il s'arrête aux portes du camp. C'est extrêmement fort ce moment-là. Il s'arrête aux portes du camp. Il a expliqué tout le processus, il s'arrête aux portes du camp. Et quand on lui a demandé, mais pourquoi vous n'avez pas fait rentrer le spectateur dans le camp? Et lui, il dit, il fallait que le spectateur imagine ce qui allait advenir. On le sait, ce qui va se passer. Mais ce qui était important, c'est que c'était maintenant au spectateur de travailler, c'est-à-dire de se projeter dans tout ça, c'était rien encore par rapport aux horreurs qui vont se passer dans le camp. Donc c'est à vous maintenant de continuer ce travail. Ben Gunther Anders, c'est exactement la même chose. Nous avons du mal à nous représenter ce que ça peut être une explosion atomique. La destruction de 200 000 personnes en une fraction de seconde, c'est inimaginable. C'est pour ça que c'est intéressant que nous puissions, nous, avoir une grammaire, c'est tout le travail de Gunther Anders, une grammaire pour comprendre, se construire cette représentation, la ressentir comme il l'a ressenti lui, c'est-à-dire dans sa chair, dans son affect, et produire un travail d'imagination. C'est un mot-clé dans l'œuvre de Gunther Anders, c'est-à-dire bien se représenter ce que sera la destruction du monde par l'utilisation de l'arme atomique. Et là, vous voyez, on n'a pas de catégorie de comparaison. Nous, nous avons du mal à nous représenter ce que ça peut être l'intensification de l'explosion atomique parce que nous n'avons pas de critères de comparaison. La découverte des camps, il n'y avait pas d'équivalent dans l'histoire de l'humanité, ou en tout cas pas à cette échelle-là et pas à cette échelle industrielle. La destruction atomique, nous n'avons aucune capacité de nous représenter. Ça, c'est une dimension supraliminaire, quelque chose qui est en fait trop grand pour accéder au sens, hein, vraiment de nous imprégner, de l'éprouver. On n'a pas de critères de compréhension. Et comme par ailleurs, de l'autre côté, la minimisation marche à plein régime, eh bien vous voyez, nous avons encore plus de difficultés pour nous représenter la puissance de la destruction et l'ampleur des conséquences.
Une des raisons psychologiques qui est documentée notamment par Paul Slovic, un psychologue américain, qui dit, face au très grand nombre, on est insensible.
Benoît Pelopidas.
Si je vous dis, voilà, de l'autre côté du boulevard Saint-Germain, il y a un jeune enfant qui est en train de se faire écraser, vous allez très probablement vous précipiter pour essayer de le sauver. Si je vous dis, aujourd'hui, il y a 12 000 enfants qui meurent sur les routes, le deuxième chiffre est un chiffre. Et donc, face à tout ça, face à la tentation de croire à la protection et au contrôle parfait, face au désir d'être rassuré, face à ce que Anders nous appelle le décalage prométhéen, c'est le décalage entre la capacité de détruire et la capacité d'imaginer la possibilité de cette destruction et de s'y relier moralement. Face au discours qu'on a appelé le discours technostratégique, qui rend séduisant de parler d'armes sophistiquées, d'armes modernes, on entre d'emblée dans un discours qui est de la paraphrase et qui attribue aux armes nucléaires plus de bienfaits qu'elles n'en ont. Donc mon propos, si vous voulez, c'est de dire que mon insistance qui agace certains sur la recherche indépendante, c'est une nécessité pour rendre l'évaluation des effets de ces politiques possible. Parce que si on s'en tient au discours tel qu'il est, on tombe dans le piège que Anders nous a indiqué. Et c'est là que je veux vous lire un passage, parce que de ça, il déduit ce qu'il appelle une des vertus de l'âge nucléaire, qui est le courage d'avoir peur. C'est dans son ouvrage « Hors limite pour la conscience », notre conviction entretenue par la division du travail que chaque problème appartient à un champ spécifique de compétences dans lequel nous n'avons pas le droit d'intervenir. Ainsi, le problème atomique appartient, prétend-on, au champ de la compétence des politiciens et de l'armée. Et de ça, il en déduit, la peur m'est épargnée puisqu'elle est prise en charge par un autre champ de compétences. Et donc il dit, ce qu'il est essentiel d'atteindre au nom de la lucidité, c'est justement de réclamer le droit d'avoir peur et de faire valoir un courage d'avoir peur du fait de la condition de vulnérabilité nucléaire qui est la nôtre.
S'il y avait une guerre, s'il y avait cette escalade à une guerre thermonucléaire totale, on aurait aujourd'hui au moins immédiatement à peu près 100 millions de personnes qui seraient tuées.
Sébastien Philippe.
C'est un chiffre qui est énorme, qui est difficile à comprendre, hein, parce qu'on est dans des ordres de grandeur qui sont quelque chose qu'on n'a jamais vécu en fait, dans notre histoire. Plus de 100 millions de personnes seraient tuées. Et puis au-delà de ça, il y a aussi, depuis les années 80, on se pose la question des impacts plus grands environnementaux, en fait, de détruire toutes ces villes et d'avoir des feux énormes qui injecteraient des particules de carbone dans la stratosphère et qui absorberaient une partie du rayonnement solaire et viendraient à réduire la température moyenne de la planète, ce qu'on appelle l'hiver nucléaire. Et là, on pourrait avoir par la suite l'impossibilité de produire assez de nourriture pour nourrir tout le monde sur la planète, et on pourrait avoir encore plus de gens qui mourraient de faim. On est dans des chiffres où on atteint le milliard de gens qui pourraient mourir. Et ce sont des travaux qui ont lieu à l'Académie des sciences des États-Unis, qui est en train de préparer et de sortir une étude sur le sujet. Et c'est aussi une étude qui a été demandée aux Nations Unies sur ses conséquences de l'utilisation des armes nucléaires. Et ça va être la première étude sur le sujet aux Nations Unies depuis le milieu des années 80.
Inuit Le Cail,
Polynésie française, bonjour.
20 juillet
2021. 110 000 Maori ont subi les soirs du 18 et du 19 juillet 1974. Suite aux pluies radioactives qui sont tombées sur Tahiti, les îles du vent, les îles sous le vent, à cause du tir nucléaire Centaure, c'est 193 bombes atomiques, 368 retombées radioactives sur toutes nos îles, 600 nouveaux cas de cancer par an, 300 décès par an, 9000 personnes au moins atteintes de maladies radio-induites. Est-ce qu'on doit continuer à se taire ?
Quel est le risque de guerre nucléaire aujourd'hui? Le risque de conflit nucléaire, le fait que les pays qui sont dotés, et notamment certains comme la Chine, augmentent de manière drastique leur arsenal nucléaire, et quelle serait la conséquence de l'utilisation de ces armes sur les populations qui seraient parties prenantes au conflit, mais même celles qui ne seraient pas parties prenantes au conflit, puisque ce qu'on a compris aujourd'hui, c'est que les effets d'utilisation des armes nucléaires, ils seraient globaux en fait. On est en train aujourd'hui de remettre à jour notre compréhension des conséquences de l'utilisation de ces armes. elle se rappelle à nous d'une manière très forte et on se rend compte encore plus l'état de vulnérabilité dans lequel on se trouve.
Rien ne justifie les armes de destruction massive.
Frédéric de Klerk, ancien président de l'Afrique du Sud, 2010.
En termes de droit international, de moralité, de droits de l'homme, nous devons débarrasser le monde des armes nucléaires et des autres armes de destruction massive. De même que l'Afrique est devenue, grâce à ce que j'ai réalisé en Afrique du Sud, une zone exempte d'armes nucléaires, le monde entier doit le devenir aussi.
« 7 juillet 2017. On veut m'interdire, me démanteler. La colère gronde dans de nombreux pays. Ils en ont marre de la menace que je fais peser sur eux au nom de quelques membres du club. Il est vrai qu'il y a 50 ans, ils s'étaient engagés à faire des efforts pour me désarmer. À force de me démultiplier, de voyager d'un pays à l'autre, ils redoutent un accident, sans compter qu'un jour, l'un d'eux pourrait me faire sortir de moi, à force de vitupérer. Je comprends ceux qui râlent. Ils n'ont pas demandé à évoluer sous le joug de mon arbitraire cruauté, à vivre ainsi sous ma menace, dans une peur qui ne dit jamais son nom. Ils affirment que leur liberté est incomplète.
Good afternoon, welcome everybody. Thank you for joining us today. We have with us Ambassador Elaine White Gomez of Costa Rica. Welcome, you have the floor.
Thank you, good afternoon, welcome. I thank you for your presence here. Well, you already know the good news.
Hélène Gomez, 7 juillet 2017.
The United Nations formally adopted the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. This is a historic moment for the international community.
C'était une journée assez extraordinaire, intense en termes de pression et d'émotion. Il faut bien comprendre
Jean-Marie
que donc j'ai eu la chance de participer à l'ensemble du processus depuis 2010 qui s'est appelé l'initiative humanitaire, qui était un ensemble de conférences à travers la planète pour prendre conscience, apporter de l'information auprès de très nombreux États sur qu'est-ce qui se passe si une arme nucléaire explose volontairement ou involontairement au cas d'accident, et qui a ouvert des négociations pour créer ce fameux traité sur l'interdiction des armes nucléaires en 2017, le TIAN. Ce vendredi-là, la présidente de cette réunion, Madame Hélène White Gomez, une diplomate costaricaine, va procéder en fait aux derniers ajustements qu'elle a eu réalisés et donc soumet au vote ce futur traité. Et même si dans notre fond du cœur, on se doutait que celui-ci allait être adopté, il y avait une nécessité d'avoir une forte adoption, ce qui sera le cas, hein, 122 États votent pour ce traité. Et donc au moment du clap avec son petit marteau, c'est un, on peut dire, des cris de hurrah dans la salle, une émotion forte et saine. C'est en partie à cause de ce travail au sein du TIAN que nous avons reçu le prix Nobel de la paix quelques mois plus tard. Une émotion forte aussi pour les personnes, les survivants d'Hiroshima et de Nagasaki qui sont à côté de nous. C'est le fameux discours de Tetsuko Torlo qui commencera en disant
« Oui, Hibakusha !»
Les Hibakusha avons attendu cette interdiction depuis 72 ans. Que ce traité marque le début de la fin des armes nucléaires.
Pour la première fois, on a une norme qui interdit globalement les armes nucléaires. On a bien plein de traités qui sont extrêmement importants, notamment le traité de non-prolifération nucléaire, qui vient interdire à un groupe d'États de posséder des armes nucléaires, mais qui ne l'interdit pas à un autre groupe d'États, la France, hein, les 5 États dotés d'armes nucléaires, la France, les États-Unis, la Russie, la Grande-Bretagne et la Chine, qui les oblige à aller au désarmement, c'est vrai, mais voilà, il manquait un certain nombre d'interdictions. Dans les interdictions intéressantes que met en place le TIAN, il y a notamment l'interdiction de la menace d'emploi de l'arme nucléaire. C'est la politique de dissuasion, c'est la base aujourd'hui de ce qui crée finalement cette tension internationale, hein, cette menace permanente d'employer des armes nucléaires. On a une interdiction également, par exemple, sur l'investissement et le financement des armes nucléaires. Donc les banques sont, une partie des banques respectent en tout cas cette interdiction. Et puis on a aussi tout un côté qui n'existait nulle part dans les traités. C'est à la fois la reconnaissance des victimes des armes nucléaires, la volonté d'aider ces populations et la volonté aussi d'aider les États qui ont subi les conséquences des explosions d'armes nucléaires, comme le Kazakhstan, par exemple, les Fidji, un jour probablement l'Algérie et peut-être la Polynésie française quand la France ratifiera ce traité. Donc voilà, c'est un traité de désarmement et on dit que c'est aussi un traité de désarmement dit humanitaire pour cet aspect-là, sur ces questions-là.
Alors le Tian a été signé en 2017 par un ensemble d'États qui justement estiment que le TNP n'est pas mis en œuvre comme il devrait l'être et qu'il faut aller plus loin avec un traité qui interdise véritablement les armes nucléaires.
Emmanuel Maître.
Donc pour la communauté à la fois des ONG et des États qui ont signé et négocié le Tian, il y a un problème majeur à interdire les armes chimiques, interdire les armes biologiques, mais autoriser les armes nucléaires. Donc il y avait un problème, il fallait le résoudre par l'adoption de ce traité. Ce traité ne change pas grand-chose pour l'instant, parce que les États qui possèdent des armes nucléaires, aucun d'entre eux n'a participé aux négociations, mais c'est les personnes qui le défendent, ses promoteurs, espèrent qu'il va renforcer le tabou nucléaire, que petit à petit, ben justement, pousser, faire pression sur les États qui ont des armes nucléaires. Donc il y a vraiment deux camps complètement opposés sur est-ce qu'on peut faire dépendre la sécurité collective sur un objet qui, en fait, est un objet de destruction massive. Est-ce que ça, ça peut fonctionner dans le long terme?
À tous les présidents et premiers ministres de toutes les nations du monde, je vous invite à signer ce traité pour éradiquer à jamais la menace de l'anéantissement nucléaire.
Alors, pour ceux qui ne l'ont pas signé, eh bien, l'existence d'une norme, c'est déjà un impact. Aujourd'hui, on a, on va dire, deux clans, ceux qui possèdent l'arme nucléaire et ceux qui sont en faveur de la politique de dissuasion nucléaire. En gros, une petite cinquantaine d'États, hein. Et puis, en face, on a ceux qui ne veulent pas d'armes nucléaires parce qu'ils ont décidé, ils ont fait ce choix. Ils estiment que l'arme nucléaire est dangereuse pour leur sécurité et donc c'est aujourd'hui, on va dire, le reste du monde. Ils sont majoritaires. C'est-à-dire que ces États ont bien compris du Costa Rica au Mexique qui a subi les retombées nucléaires des essais américains, par exemple à la Nouvelle-Zélande, à l'Indonésie ou la Malaisie qui pourtant sont proches d'une puissance nucléaire avec la Chine et avec qui ils ont de nombreuses problématiques, notamment de reconnaissance des frontières au niveau des différentes mers qui sont proches, ont toutes compris que en cas de guerre nucléaire, ils en subiraient directement les conséquences, même s'ils ne sont pas partie prenante à la guerre. Donc c'est la prise de conscience de l'insécurité qui règne depuis 1945 et qui les oblige à agir.
Marche pour la paix, Chicago, 10 avril
1980. We don't need old battleships with new paint. What we need are food and jobs for our people.
Amiral Bernard Roger.
L'arme nucléaire, elle existe aujourd'hui. C'est comme ça, elle existe depuis 1945. On ne la désinventera pas. Donc il y a deux méthodes pour arriver à désarmer. Soit on s'engage sur un désarmement progressif et en confiance, c'est le TNP. Soit on dit... il faut supprimer toutes les armes nucléaires maintenant. Mais pour faire ça, il faut avoir conscience que quand on s'adresse aux démocraties, c'est facile. Quand on s'adresse aux États moins démocratiques, ça l'est moins. Le Tian, c'est peut-être souhaitable, mais c'est idéaliste. Moi, je prétends que la seule manière d'y arriver, et il ne faut pas baisser les bras, c'est d'aller vers un désarmement progressif. Mais vous ne désinventerez pas l'arme nucléaire, elle est là.
Après, si vous attendez en tant qu'État démocratique que la Corée du Nord fasse le premier pas, c'est vrai qu'on va attendre très longtemps. On va attendre très longtemps si on demande à la Turquie et à l'Arabie Saoudite de faire respecter le droit sur les femmes. En Afghanistan, par exemple, on va attendre très très longtemps. On doit agir en premier. Mais ce qu'il faut comprendre, et ce qu'il faut que les pro-armes nucléaires arrivent à entendre, le désarmement, ça commence par en parler. par exemple, participer aux réunions du traité sur l'interdiction des armes nucléaires comme État observateur. On a une responsabilité en tant qu'État nucléaire, en tant qu'État démocratique, d'être présent à ce type de réunion. C'est ça, un engagement à désarmer déjà. Et puis, ça permettra d'élargir la conversation et d'obtenir voilà, des réflexions internationales, de créer une pression et d'avancer sur ce processus-là. Aujourd'hui, on n'en est même pas là. C'est ça qui est déjà reproché à des États comme le nôtre, dit démocratique de la France, où il n'y a même pas cette volonté de réflexion.
La modernisation de l'arsenal nucléaire, c'est plus de 2 000 milliards de dollars sur les 30 prochaines années. C'est un coût qui est beaucoup moindre que le budget global de la défense. Mais il est quand même assez important pour poser des questions sur est-ce qu'on peut tout faire à la fois ? Et la réponse aujourd'hui, c'est non. Est-ce que quand la Russie a envahi l'Ukraine, qu'est-ce qui a stabilisé le front ? Est-ce que ce sont les armes nucléaires ou est-ce que ce sont les munitions d'artillerie et peut-être les missiles conventionnels à longue portée qui ont permis de tenir le front et d'empêcher l'invasion d'arriver ? Ou est-ce que ce sont les armes nucléaires ? Ce sont les armes conventionnelles. Donc de dire que c'est une sécurité à bas coût, mais de quelle sécurité on parle ? Parce que si vous n'avez pas d'armée conventionnelle, si vous n'avez pas de soldats, si vous n'avez pas de chars, vous allez vous faire envahir. C'est ce qui serait passé en Ukraine. Est-ce que si les Ukrainiens avaient l'arme nucléaire, ils auraient pu empêcher cette invasion ? C'est pas très clair pour moi. Parce que le pari, c'est quoi ? J'utilise une arme nucléaire sur vous et vous, vous détruisez mon pays en retour. Le dilemme, c'est très difficile d'en sortir. Et l'idée que ça produit de la sécurité, ça n'a absolument pas été, on va dire, démontré encore aujourd'hui. Donc c'est pas très clair pour moi que les armes nucléaires apportent autant de sécurité. En tout cas, ce qui est clair, c'est que la taille des arsenaux aujourd'hui, elle est complètement pas adaptée à la sécurité qu'on aimerait qu'elle nous procure. Il y en a trop des armes, et le 5 février 2026, ça sera la fin du dernier traité de contrôle des armements entre les États-Unis et la Russie. Et si ce traité disparaît, eh ben, il n'y aura plus aucun contrôle sur la taille des arsenaux dans le monde. Et on sera à nouveau dans une situation où on aura toutes les conditions réunies pour une nouvelle course aux armements. Je pense que ce qui est difficile, c'est que pour les institutions qui sont en charge des armes nucléaires, elles considèrent qu'elles vont pouvoir garder le contrôle. Elles ne peuvent pas poser la question de ce pari, parce que ça serait remettre en cause finalement aussi leur existence. Et c'est un problème. Donc il faut être capable de créer l'espace public, intellectuel, qui soit capable d'éclairer nos choix politiques et nos choix de défense nationale.
Poursuivre la voie de la dissuasion nucléaire et dire on va garder la dissuasion nucléaire pendant, je sais pas, 70, 100 ans. Et à aucun moment,
Benoît Pélopidas,
il n'y aura d'explosion nucléaire non désirée, ni dans notre arsenal, ni dans tout arsenal nucléaire qui vise la France. C'est un pari sur la chance. La technologie n'échouera que de manières qui sont acceptables pour nous. C'est-à-dire, elle échouera si ça n'explose pas. Donc vous voyez, on peut dire, en fait, le désarmement, c'est une utopie politique. Et la dissuasion, c'est une utopie technologique. Il faut juste choisir pour quelle utopie on veut batailler. Ensuite, à plus court terme, ce sur quoi on peut se mettre d'accord, c'est éviter la course aux armements, dans la mesure où le dimensionnement actuel des arsenaux nucléaires est très en excès par rapport aux exigences de la dissuasion nucléaire. Donc il n'y a pas de bonne raison de ne pas réfléchir à « il est urgent d'arrêter la course aux armements ». On a l'impression que le changement est structurellement impossible, alors qu'on pourrait réfléchir à tout un tas, justement, d'états du monde intermédiaires qui sont plus acceptables que le monde dans lequel on est. Même si la catastrophe nucléaire n'a pas lieu, en tant que résident et citoyen dans un État doté d'armes nucléaires, vous êtes déjà impacté par la politique nucléaire de votre État. Parce que, en tant que citoyen, l'État attend de vous que vous déléguiez votre autorité au chef de l'État qui pourrait utiliser les armes en votre nom, en tant que contribuable. Vous êtes déjà sollicité, puisqu'on va vous demander implicitement de financer l'arsenal nucléaire national avec vos impôts. Et enfin, en tant que cible, puisque nous avons un adversaire qui est la Russie, dont on a déjà dit que les armes nucléaires sur le sol français étaient des cibles prioritaires, puisque son critère de dimensionnement, c'était de frapper les armes nucléaires ennemies avant qu'elles ne soient lancées contre elles. La question qu'il faut se poser, c'est vraiment pour laquelle des deux utopies on veut avancer, et si on ne veut pas choisir d'utopie, pourquoi ne pas défendre un monde où il n'y a pas de course aux armements et où il n'y a pas de mission pour les armes nucléaires au-delà de la dissuasion? Ça seulement, ça nous donne une marge de réduction des arsenaux considérable.
Nous sommes en danger de mort à cause d'actes de terrorisme perpétrés par les hommes sans imagination et les analphabètes du sentiment qui sont aujourd'hui tout-puissants. Celui qui croit que, depuis 1945, depuis le naïf Truman, ces terroristes tout-puissants, ces hauts fonctionnaires, n'ont pas agi conformément à une rationalité, celui qui croit pouvoir faire changer d'avis ces hommes en leur offrant des petites fleurs, en mettant ses petites mains dans d'autres petites mains pour constituer une chaîne humaine, ou en parlant avec eux d'homme à homme, celui-là est naïf, car il ignore les intérêts de l'industrie militaire. Nous devons vraiment gêner ces hommes bornés et tout-puissants qui peuvent décider de l'être ou du non-être de l'humanité. Nous devons vraiment leur lier les mains. Dans l'intérêt des hommes d'aujourd'hui et de ceux de demain, on ne doit pas donner d'ordre comme celui à cause duquel on a anéanti Hiroshima et Nagasaki il y a maintenant 40 ans. Il ne faut plus qu'il y ait de tels ordres, ni de tels donneurs d'ordre. Celui qui conteste la nécessité de faire ainsi obstacle se rend complice de ces donneurs d'ordre. Gunther Anders, 1986.
Gunther Anders s'interroge sur pourquoi est-ce qu'on l'accepte. Alors il y a plusieurs stratégies qui expliquent, dispositifs qui vont expliquer pourquoi on accepte la bombe. La première, c'est la rationalité. C'est ce qu'on appelle la dissuasion nucléaire.
Bruno Villalba.
Et ça, Gunther Anders le balaye d'un revers de la main. La dissuasion nucléaire, c'est une ineptie politique dès lors qu'on est incapable de contrôler l'effectivité, la rationalité de la décision politique. Qui peut nous assurer que dans 10, 15, 20 ans, ou même dans 2 ans, nous n'aurons pas une espèce de sociopathe qui arrivera à la tête d'un pays et qui l'utilisera pour des tas de raisons, pour un dieu, pour une cause, quelle qu'elle soit, etc., etc. Donc, la dissuasion nucléaire repose sur un principe de rationalité, et dit Gunther Anders, encore une fois, cette rationalité, elle est obsolète, puisqu'elle continue à construire un rapport de proportion de l'usage d'un outil par rapport à quelque chose qui n'est plus proportionné dans notre capacité de la maîtriser. Et donc, elle nous échappe. Nous sommes plus petits que ce que nous avons créé, dit-il. Deuxième chose, eh bien, c'est le déni. Face à l'angoisse de la bombe atomique, face à l'angoisse de la puissance de la destruction, comme on nous explique qu'on ne va pas l'utiliser, eh bien, ma foi, pourquoi plus s'inquiéter de ça? Nous sommes dépossédés, comme dans tout processus industriel, de la moindre responsabilité sur ce qu'on fait. D'où le troisième élément, c'est l'indifférence, dit Gunther Anders. Une fois qu'on a accepté le fait qu'on est dépossédé de notre responsabilité, l'homme devient un simple élément de la production industrielle. Puisque je suis dépossédé de tout pouvoir d'intervention, eh bien, je me réfugie dans une sorte de passivité morale et puis de fatalisme. Donc, sans remettre à la capacité de techniciens, qu'ils soient les ingénieurs du nucléaire, ou les techniciens de l'art de la guerre, les militaires et un certain nombre d'hommes politiques, c'est s'en remettre à une partie des acteurs qui vont décider au nom de toutes les catégories de la population. Qui a décidé le lancement du programme nucléaire aux États-Unis? C'est pas le peuple, c'est une élite économique, une élite technique et une élite politique. Or, Anders dit, il faudrait effectivement ne pas simplement les désigner nommément et dire que c'est les responsables, mais il faut aussi assumer notre part de responsabilité, puisque nous ne faisons pas en sorte, en tant que citoyens, que la question de la destruction de notre propre monde soit une question proprement politique. Donc c'est pas une question technique, la question du nucléaire, c'est une question proprement politique.
août 2045. Je suis né il y a un siècle à Hiroshima. Je ne suis plus qu'une vieille chose à bout de souffle. Ce n'est pas mon corps qui est usé, non. Les hommes le retouchent, le remodèlent sans cesse. C'est plutôt le moral qui vacille. J'ai souvent l'impression d'être inutile. Et puis à mon âge, j'ai peur de perdre le contrôle. Il est temps pour moi de partir, de me désintégrer pour de vrai, pacifiquement. Amusé à accepter de me prendre en pension. Ce ne sera pas tout à fait la retraite, mais le boulot m'intéresse. Je serai la première arme d'éducation massive de la collection. Le conservateur est convaincu que je vais faire un tabac. Il m'a demandé de ne pas lésiner sur ma capacité de persuasion, de témoigner de toute l'horreur dont je suis capable. Pour moi, ce sera une vraie catharsis. Aujourd'hui, j'ai 100 ans et une nouvelle vie, loin de la tyrannie des hommes, s'ouvre enfin à moi.
We will keep moving.
Nous continuerons à avancer,
pushing,
à diffuser
keep sharing
et à partager cette lumière pour les autres.
We said,
nous l'avons dit,
nuclear weapons,
les armes nucléaires
and
et l'humanité
cannot
ne peuvent pas coexister.
Last night I had the strangest dream I'd ever dreamed before. I dreamed world had all agreed to put an end to war.
Un héritage éternel avec Sébastien Philippe, Benoît Pélopidas, amiral Bernard Rogel, général Bernard Norlin, Emmanuel Maître, Jean-Marie Collin et Bruno Villalba. Voix de la bombe, Sarah Chaumette, avec Laurent Lederer, Laurent Manzoni, Anaïs Isebert. Prise de son, Benjamin Thuot, Amandine Grévoz-Frichou et Marie-Claire Oumabadi. Mixage Frédéric Changenet avec Pierre Langlais. Archivina, Samia Jedaï et Hervé Evano. Documentaliste, Anne-Lise Signoret et Antoine Vuilloz. Traduction, Elsa Viton. Chargée de programme, Anne-Vanessa Prévost. Coordination, Christine Bernard. Responsable éditorial, Emmanuel Laurentin. Malgré nos demandes, il ne nous a pas été permis de nous entretenir avec un spécialiste du commissariat à l'énergie atomique ou de la Direction générale de l'armement. Une grande traversée de Stéphane Bonnefoy, réalisée par Anne Pérez.